Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Comme chaque samedi, 7 jours d'actualité en une émission. C'est maintenant. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez aussi podcaster cette émission, la retrouver sur notre site rfi.fr. Une semaine d'actualité nous conduira au Bangladesh ou en Russie par exemple. Rendez-vous avec l'actualité africaine après le prochain flash. Mais tout de suite évoquons la décision annoncée mercredi par le Comité international olympique de confier les Jeux olympiques précisément de 2024 à Paris. Écoutez entre autres réactions, celle entendue cette semaine de l'ancien champion du monde et olympique de judo, Thierry Rey.
Oui, c'est un honneur, un insigne honneur d'aller dévoiler les anneaux à Paris. C'est une symbolique extraordinaire. On a bossé depuis des années pour amener cet événement planétaire, olympique et paralympique. On a fait un dossier crédible, responsable, technique. Et on pense vraiment être la meilleure proposition au meilleur moment. Et voilà, les membres du CIO nous ont fait confiance, ça chante. On a le soleil dans le cœur. On est ravis, c'est formidable. On s'en fout de la pluie. C'est génial, ça fait partie de la vie la pluie. Non, c'est génial. Voilà, on entend la Marseillaise parce que c'est pas seulement la victoire de Paris, c'est la victoire de tout un pays. Et on va vouloir, à travers ces 7 ans qui nous restent, construire vraiment un beau projet pour que tous les Français puissent y participer.
Vous écoutez RFI et vous avez raison, une semaine d'actualité, notre invité Yann Mince, journaliste alternative économique, dois-je le rappeler d'ailleurs. Bonjour Yann.
Bonjour.
Nous entamons ensemble une nouvelle saison qui sera parsemée de rendez-vous avec vous, car nous aimons et les auditeurs aiment vos commentaires sur l'actualité internationale, notamment. Vous aussi, vous avez du soleil dans le cœur après cette attribution des Jeux Olympiques.
Pour être très franc, ça me laisse un peu froid. Je suis content que les organisateurs soient contents, ça fait toujours plaisir d'entendre des gens heureux comme Thierry Rey.
Mais quelle atmosphère de cocorico vous avez remarqué quand même, les journalistes.
Les compétitions, et c'est notamment les compétitions de sport, mais les compétitions aussi pour le sport donnent lieu à peu près mécaniquement à ce genre de manifestation et de cocorico un peu. Si je vois un avantage à ces jeux, c'est plutôt du côté des Jeux paralympiques. Si ça pouvait être l'occasion d'améliorer les installations à Paris et dans sa périphérie pour les personnes qui ont un handicap de façon plus général et pas seulement les sportifs, ce serait une bonne occasion. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'accès de transports en commun qui peuvent être perfectionnés de ce point de vue-là.
Avec une maire de Paris, Anne Hidalgo, qui était contre les Jeux ou pas très enthousiaste et qui maintenant est la première des défenseurs.
Oui, mais que j'ai entendu dire sur l'antenne du RFI qu'elle serait bien contente de toujours être mairesse en 2024. Ouais. Et donc c'est une espèce d'annonce de candidature si quelqu'un en doutait.
Ce qui montre l'importance qu'a pris ce genre de manifestation aujourd'hui.
Oui, ça dépasse largement à la fois parce que ce sont des enjeux financiers importants, commerciaux, et puis c'est un enjeu politique. Quand on arrive à décrocher les jeux pour sa ville, je pense que ça booste, comme on dit maintenant, votre popularité. Oui. Je suis pas sûr que ça dure très longtemps. Très honnêtement, je pense que la politique de logement social doit avoir un impact un peu plus long sur l'image que les citoyens d'une ville ont de leur maire. Plus que peut-être les JO, mais peut-être que je me trompe.
Yann, c'est rare, j'avoue. Yann, c'est nous gentil. Allons commencer notre tour du monde de l'actualité dans le monde. Mercredi, en Europe, mercredi devant les députés européens à Strasbourg, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a exprimé un rêve lors de son discours sur l'état de cette Union, précisément. Écoutons-le.
Mon espoir est que le 30 mars 2019, les Européens se réveilleront dans une Union où nous défendrons toutes nos valeurs, où tous les États membres respecteront sans nuance l'état de droit, où un membre à part entière de la zone euro, de l'union bancaire, de l'espace Schengen soit devenu la norme pour tout un chacun, et où notre marché unique sera plus équitable pour les travailleurs de l'Est comme de l'Ouest. Je voudrais que les Européens puissent se réveiller dans une Europe où nous aurons réussi à nous mettre d'accord sur un solide socle de normes sociales, où les bénéfices seront imposés là où ils sont réalisés, où les terroristes ne trouveront aucune faille à exploiter, et où nous serons mis d'accord sur la création d'une véritable Union européenne de la défense.
Alors, aux portes de cette Union européenne, la Russie a commencé cette semaine de grandes manœuvres avec la Biélorussie, d'ailleurs. Correspondance de Moscou signée Daniel Valo, mercredi.
Près de 70 avions et hélicoptères, 250 chars, 200 pièces d'artillerie et une dizaine de navires, les moyens déployés pour ces manœuvres sont impressionnants. Pourtant, la Russie l'a réaffirmé à plusieurs reprises, Zapad 2017 sera un exercice purement défensif. Les troupes mobilisées, moins de 13 000 hommes, assure le ministère russe de la Défense, qui dénonce les affabulations des pays baltes et de la presse occidentale lorsqu'est évoqué le caractère offensif de ces manœuvres. Pourtant, en Pologne, dans les pays baltes et au sein de l'OTAN, l'inquiétude persiste. L'inquiétude sur les intentions de la Russie. Les pays baltes craignent notamment de voir les forces russes profiter de ces manœuvres pour laisser des troupes en Biélorussie. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a prévenu que l'organisation resterait vigilante durant ces manœuvres. L'OTAN a déployé 7 chasseurs F-15 supplémentaires afin de surveiller l'espace aérien des pays baltes durant toute la durée de l'exercice.
Europe encore, Yann Mince, avant de vous retrouver avec l'Espagne aux prises avec la Catalogne une nouvelle fois. Les indépendantistes de ce territoire ont manifesté en effet lundi 11 septembre, le jour de la fête de la Catalogne. Madrid, François Musso.
Depuis 2012, 5 marches monstres ont eu lieu les 11 septembre dans les rues de Barcelone, à chaque fois pour réclamer la séparation d'avec l'Espagne. Beaucoup de Catalans considèrent que Madrid ne les respecte pas. Montse, professeur, est venu avec sa fille.
Parce que c'est la Catalogne et que nous sommes Catalans, nous voulons décider de notre sort, donner notre opinion.
Dans son entourage, beaucoup de familles, de groupes d'amis, tous couverts d'un t-shirt jaune fluo avec dessus un « oui » écrit en plusieurs langues, sous-entendu un « oui » à l'indépendance. Tous les secteurs de la société sont représentés, tous les âges aussi. Lluís, 82 ans, dit vivre un moment historique.
Je ressens une émotion profonde, énorme, unique. C'est un moment sensationnel, magique.
Beaucoup veulent croire que le 1er octobre, le référendum aura lieu dans toutes les municipalités de la Catalogne, mais ils savent que cela sera difficile. Des grandes villes comme Barcelone s'y opposent. Jordi, informaticien, sent de la rage.
Nous n'avons jamais appartenu à l'Espagne. Ceux de Madrid nous ont soumis en 1714. La Catalogne alors existait comme telle, pas l'Espagne.
La mobilisation a été un succès. Le chef nationaliste de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont, a dit « On ne peut pas arrêter un tel peuple ». Mais à Madrid, on n'est pas de cet avis.
Alors Yann, nous avons commencé notre tour du monde en Europe. J'ai fait un rêve, dit en quelque sorte Jean-Claude Juncker.
Alors, c'est intéressant que Jean-Claude Juncker fasse un rêve maintenant, parce que il a dit qu'il ne se représenterait pas, je crois, comme président de la Commission. C'est un homme qui a été depuis très très longtemps à la construction européenne, comme ministre de son pays, Luxembourg, comme Premier ministre, maintenant comme président de la Commission. Et j'étais amusé de l'entendre parler de fiscalité. Parce que s'il y a un pays qui effectivement est encore assez réticent à une harmonisation de la fiscalité en Europe, c'est le Luxembourg, parce qu'évidemment, comme il a une fiscalité très favorable à son entreprise, il les attire, et donc il perdrait une partie de sa valeur ajoutée, si je puis dire. Donc c'est intéressant que Jean-Claude Juncker, mais il me rappelle un peu ces anciens ministres de la Défense ou secrétaires d'État américains ou d'autres d'ailleurs, qui deviennent contre l'arme nucléaire une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir.
C'est très... Paul Killas, par exemple.
Non, je pensais surtout, non, parce que Paul Killas, je pensais plus ancien, je pensais à des gens comme Kissinger, comme ça, qui tiennent des discours beaucoup plus anti-prolifération, anti-nucléaire, pardon, que quand ils étaient au pouvoir. C'est très surprenant. J'aurais bien aimé que Jean-Claude Juncker soit, comment dire, plus actif dans ce qu'il propose quand il était vraiment aux affaires côté gouvernemental qu'il l'est aujourd'hui.
Alors, les manœuvres de Vladimir Poutine aux frontières européennes.
Alors, je lisais un article.
Aux frontières de la Pologne, en tout cas avec la Biélorussie.
Je lisais un article d'un chercheur d'un think tank qui s'appelle le German Marshall Fund qui explique que il y a toujours un scénario dans ces espèces de manœuvres. Il s'agit de repousser une attaque, etc. Et là, j'ai bien compris, le scénario russe, ce serait que les pays occidentaux créeraient un mini-état ethnique en Biélorussie. Et alors, on se demande un peu si les Russes ne prêtent pas aux autres les intentions, et même pas les intentions, les réalités, parce que c'est ce qu'ils font dans le Donbass en Ukraine, c'est ce qu'ils ont fait en Géorgie avec l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud. C'est amusant de voir voir que les Russes fantasment sur le fait que les autres puissent leur faire ce que eux ont déjà fait.
Alors la Catalogne qui veut organiser un nouveau référendum sur l'indépendance, sauf que là Madrid est entré en guerre contre les autorités de la Catalogne. Alors, 700 maires ont été prévenus, n'organisez pas de référendum sinon vous aurez des problèmes par exemple.
Oui, en même temps, je crois pas que Madrid va envoyer la force armée pour empêcher ce référendum. Mon intuition c'est que ce référendum va être un demi-référendum, c'est-à-dire que visiblement, comme le rappelait François Musso dans le reportage, des maires de plusieurs grandes villes, les plus grandes villes, en tout cas parmi les plus grandes villes de Catalogne, ont refusé d'organiser le référendum. Ce qui veut dire qu'une partie de la population ne pourra pas aller voter, a priori, dans de bonnes conditions. Ce qui veut dire que ce référendum aura lieu, qu'iront voter vraisemblablement les plus motivés et dans les municipalités les plus pro-indépendance, qu'on va avoir un taux de participation qui sera probablement pas représentatif dans l'ensemble de la Catalogne, et que donc ça va continuer. Je ne crois pas, j'ai un doute sur le fait que les gens qui iront voter disent non. Ça serait peut-être plus clair à la limite que les gens, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que globalement, il y a quand même une majorité qui est contre cette indépendance, ce projet d'indépendance. Je pense qu'on va avoir quelque chose qui va durer comme ça, mais je ne crois pas que Madrid ait les moyens, enfin la capitale, le gouvernement central, Mariano Rajoy, ait les moyens d'empêcher la tenue de ce référendum vraiment partout. Il ne pourra pas l'empêcher partout. Donc ça aura lieu, on va avoir un demi-référendum et avec une demi-signification, si je puis dire.
Alors, restons en Europe, Yann, avant de partir pour le Bangladesh et la Birmanie dans un instant. Il y a eu cette semaine des manifestations de Français, notamment en Grande-Bretagne, à Londres, qui s'inquiètent de leur avenir dans la perspective, évidemment, du Brexit. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Alors, il faut rappeler qu'à Londres, il y a eu hier un attentat dans le métro qui a fait plusieurs blessés.
Oui, je pense que l'inquiétude des ressortissants européens, c'est de savoir comment va être réglée la négociation du Brexit.
Parce que plusieurs employeurs anglais, maintenant britanniques, demandent une carte d'identité britannique pour.
Et ils sont en train de devancer.
Obtenir des emplois.
Ils sont en train de devancer l'appel, si je puis dire, parce que je ne crois pas que le statut soit réglé, puisque les négociations sont encore à leur début. Et on voit bien que, à la fois du côté britannique et du côté européen, côté de Michel Barnier, côté européen, parce que c'est lui qui est chargé de ça, on est encore dans des déclarations extrêmement tranchée. Ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas que les Britanniques puissent obtenir le pudding, l'argent du pudding, si je puis dire, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir le grand marché, donc pouvoir échanger les biens avec l'Union européenne sans avoir la libre circulation. Évidemment, ceux qui sont coincés dans cette histoire-là, ce sont les ressortissants européens qui sont déjà en Grande-Bretagne et qui ne savent pas à quelle sauce, à la menthe ou pas, ils vont être mangés.
Sept jours dans le monde.
Et nous changeons de continent maintenant, Yann Mince. Partons maintenant pour le Bangladesh qui accueille depuis août dernier plus de 370 000 réfugiés Rohingyas qui fuient, vous le savez, les combats dans leur pays, la Birmanie. Pourquoi ? Reportage et explication de Sébastien Farcy.
La junte birmane a adopté en 1982 la loi sur la citoyenneté qui établit les bases d'une discrimination d'État envers les Rohingyas. Cette ethnie musulmane, présente sur ces terres depuis des générations, perd alors la nationalité birmane ainsi que le droit de faire des études universitaires. Mohamed Saemin, âgé de 20 ans et réfugié à Kutupalong, nous montre ses résultats scolaires qu'il a sauvés en fuyant son village.
Regardez, j'avais de très bons résultats, j'ai obtenu plus de la moyenne aux examens de seconde. Mais le maire m'a dit que je ne pouvais pas étudier davantage car j'avais un nom Rohingya. Il m'a dit que si j'essayais, je pourrais être tué.
Mohamed Rafik s'est affronté au même mur. Ce propriétaire terrien avait de bons revenus et voulait que ses enfants étudient pour avoir un meilleur avenir. Mais c'était impossible.
C'est interdit d'aller à l'université pour nous, les musulmans. Ils nous disent, vous êtes bengalais. On ne peut pas être docteur ou ingénieur, car on ne peut pas avoir de diplôme d'université. Du coup, on travaille la terre, c'est notre seul moyen de survie.
Le rapport de Kofi Annan, rendu le 23 août, recommandait d'offrir plus de droits et de libertés aux Rohingyas. À la place, l'armée birmane a lancé sa plus sanglante attaque contre cette minorité fragilisée.
Une semaine d'actualité, Yann Mince, ça c'est un gros titre, si j'ose dire, de l'actualité internationale depuis plusieurs mois maintenant, mais la communauté internationale, comme on dit, s'y intéresse un peu plus aujourd'hui. Pour comprendre d'ailleurs ce conflit, je vous propose d'écouter ce soir l'émission de Marie-France Chatin, Géopolitique, ce soir 20h10, heure de Paris. Elle recevra notamment une spécialiste de la Birmanie, Alexandra de Mersan, qui a vécu 15 ans dans cette région, notamment dans la région de la Rakan, qui est au cœur de ce conflit. Votre regard, quel est-il, Yann, sur ce conflit précisément?
La situation a un peu changé depuis octobre, un peu, et surtout depuis le 25 août, puisque le 25 août, il y a eu une série d'attaques contre des postes de police, etc., des objectifs gouvernementaux birmans, par un mouvement de guérilla, donc qui se réclame comme le défenseur des Rohingyas. Donc jusque-là, effectivement, on était plutôt dans une communauté qui subissait sans trop se défendre, et là, tout d'un coup, un mouvement sort qui prétend défendre la communauté. Et ce sont ces attaques qui ont provoqué la réponse extrêmement brutale et disproportionnée et sur la population civile, qui a provoqué effectivement elle-même la fuite des 370 000 Rohingyas vers le Bangladesh voisin. Donc la crise a un peu changé de nature depuis que ce mouvement de guérilla est apparu. Alors je crois comprendre que ce n'est pas le premier mouvement de l'histoire des Rohingyas, qu'il y en a eu d'autres, mais qu'ils étaient plus ou moins éteints et que celui-là ressort. Comme en plus, c'est un mouvement qui est, semble-t-il, dirigé politiquement par des gens qui sont à l'extérieur du pays et notamment dans le Golfe, des membres de la diaspora Rohingya. Tout ça est bien expliqué dans un rapport de l'International Crisis Group que je recommande à nos auditeurs, ce qui est vraiment très bien. Comme ce mouvement est dirigé par une diaspora qui est dans le Golfe, on soupçonne qu'il puisse avoir des liens avec des mouvements djihadistes. Et ça, évidemment, ça joue, si je puis dire, en faveur du gouvernement birman qui peut dire, voyez, je suis confronté à un mouvement terroriste djihadiste international. Ce qui justifierait sa répression brutale.
Et en tout cas, c'est la population qui fait les frais de cette
tension. Bien entendu, puisque le mouvement de guérilla, il n'est pas très nombreux, c'est juste quelques milliers de personnes, semble-t-il, alors que les civils qui sont victimes des exactions de l'armée, eux, ils sont plusieurs centaines de milliers. Il y a, je crois, à peu près 1 million de Rohingyas en Birmanie.
Alors, la Corée du Nord, il y a eu un nouveau tir de missile jeudi soir de la Corée du Nord, du régime de ce pays, qui a survolé une nouvelle fois le Japon. Vous signez un papier sur le site de Alternative économique, Corée du Nord, un voisin menaçant pour la Chine. J'ai l'impression que tout est bloqué, la situation est bloquée.
Il y a une espèce de chorégraphie assez bien réglée, c'est-à-dire que la Corée du Nord fait un essai d'engin nucléaire de plus en plus explosif.
Ça fait au moins des mois, dans la dernière séquence, que ça dure.
Ou un tir de missile. Alors le Conseil de sécurité se réunit, on voit des sanctions supplémentaires, et puis juste derrière, le régime en remet une couche pour dire, vous voyez bien, vous ne m'arrêterez pas. Fondamentalement, j'ai l'impression que la communauté internationale, j'aime pas beaucoup ce terme, mais disons les grandes puissances, n'ont ou pas la volonté ou pas les moyens d'empêcher la Corée du Nord de poursuivre son objectif. Et la Corée du Nord, enfin le régime nord-coréen, a un objectif qui est d'avoir l'arme pour défendre le régime contre une agression extérieure. Visiblement, le régime nord-coréen a observé l'histoire contemporaine et il a vu que Saddam Hussein avait été renversé, Kadhafi avait été renversé, ces gens-là n'avaient pas de bombe atomique. Et Kim Jong-un pense que s'ils avaient eu la bombe atomique, jamais ils n'auraient été renversés. Donc lui veut son assurance vie, et son assurance vie pour le régime, pour lui et pour le régime, son régime, c'est d'obtenir la bombe. Et comme personne n'a envie de faire la guerre à la Corée du Nord pour l'en empêcher, la Corée du Nord continue son bonhomme de chemin, et la Chine, pour des raisons que j'explique dans l'article, ne veut pas l'empêcher la Corée du Nord, d'une part parce que ça lui sert d'état tampon face à la Corée du Sud qui est alliée des Américains, donc ça fait une protection pour la Chine, un état tampon. Ouais. Et d'autre part, la Chine a très peur que la Corée du Nord s'effondre, une guerre civile, éventuellement des problèmes économiques très graves, et que ça provoque l'afflux de millions de réfugiés nord-coréens en Chine. Et ça, la Chine n'en veut absolument pas.
Il faudra veiller avec attention à ce qui se passe du côté de Washington aussi.
Oui, en même temps, Trump fait des déclarations depuis le mois d'août, surtout tonitruantes, mais il a toujours dit qu'il n'y aurait d'option militaire américaine que si le territoire américain était directement attaqué. Pour l'instant, on n'en est pas là. Kim Jong-un a fait des menaces contre l'île de Guam, qui est une île dans l'océan Indien, qui est un territoire américain, enfin, avec une base américaine plutôt. Mais il n'a pas été jusqu'au bout de sa menace. Il a brandi la menace. S'il était assez fou, et je ne crois pas qu'il le soit, je pense qu'il est tonitruant, je pense qu'il est aussi excessif que peut l'être Trump, mais je ne crois pas qu'il soit suicidaire. S'il faisait quelque chose de suicidaire, évidemment, il aurait une réaction maximale. Et même la Chine elle-même a dit que si Kim Jong-un prenait l'initiative d'une action dangereuse pour la stabilité internationale, notamment contre les États-Unis, elle ne le soutiendrait pas.
Yann, on va s'arrêter un instant, laisser place aux informations de ces dernières heures, où il sera peut-être question de la Corée du Nord notamment, et on se retrouve dans quelques 3 minutes. A tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve, nous, pour revivre les temps forts de l'actualité de ces derniers jours, avec bien sûr les reportages de la rédaction et notre invité Yann Mince du magazine Alternative Économique.
Une semaine d'actualité.
Direction l'Afrique dans un instant, Yann, mais passons d'abord par la France avec les premières manifestations de l'ère Macron, première d'une longue série qui va durer tout au long du mois de septembre. Emmanuel Macron qui, la semaine dernière en Grèce, a eu ce propos qui a attisé les tensions.
Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Mardi donc, la CGT a organisé une journée de manifestation et de grève dans un climat tendu. Anthony Latier avant cette manifestation.
Emmanuel Macron est en train de se mettre tout le monde à dos. Forcément, ça ressoude. Commentaire d'un écologiste qui s'étonne des erreurs à répétition du président. À la fois dans les paroles, ça pique contre les feignants. À la fois dans les actes, baisse des aides au logement, suppression des contrats aidés. Et surtout, réforme jugée brutale du code du travail. Une réforme qui cristallise l'opposition et permet de retisser des liens distendus. Ainsi, Benoît Hamon, l'ancien candidat à la présidentielle, désormais ex-socialiste, sera dans le cortège aujourd'hui, mais aussi dans celui du 23 septembre, organisé par la France Insoumise. On est prêt à discuter avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, mais pas à l'intégrer, précise un proche de Benoît Hamon. Attitude en tout cas saluée par Jean-Luc Mélenchon, il faut saisir sans hésitation la main qui se tend, déclare-t-il. Ce mardi, les dirigeants communistes et écologistes seront aussi dans le cortège parisien. Seuls les socialistes n'ont pas réussi à se mettre d'accord, certains n'iront pas. Symptôme d'un parti toujours laminé par les divisions internes et l'absence de ligne politique.
Macron, t'es foutu ! Les finesses sont dans la rue ! Respect ! 20 ans, c'est fini ! Et tombé !
7 jours en France.
Alors pendant ces manifestations dont vous entendez l'écho, Emmanuel Macron était aux Antilles, sur les territoires touchés par le cyclone Irma Valrigas.
Le programme d'Emmanuel Macron sur 2 jours lui permet de montrer sa préoccupation face à la situation des sinistrés. Il avait promis de venir dès que possible. Il a décollé le jour des manifestations contre la réforme du Code du travail, mais honore sa promesse et ne se contente pas d'un passage éclair qui aurait pu lui être reproché. Objectif, montrer à l'aide d'images en situation très contrôlée, un président en bras de chemise sur le terrain au chevet des populations qui est concret. Emmanuel Macron, qui a été interpellé par des habitants, a promis un retour à la normale, la reconstruction, et puis il a essayé de rassurer sur la question de la sécurité après les nombreux pillages.
Nous serons d'une extrême vigilance sur ce sujet, compte tenu de ce qui s'est passé et qui n'est pas acceptable, et de la demande légitime des habitants et des commerçants en termes d'ordre public. Et je sais, j'en ai encore eu la preuve tout à l'heure, qu'il y a des demandes très fortes. Avec l'absence d'électricité, la nuit est dangereuse.
Emmanuel Macron a même participé à une patrouille des forces de l'ordre à Saint-Martin. Alors bien sûr, il y a une bonne part de communication dans ce déplacement du chef de l'État qui doit désamorcer les polémiques sur la réactivité du gouvernement. Il s'est d'ailleurs dit favorable à l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour couper court aux attaques de l'opposition. L'opération est importante pour le président dont la cote de popularité est en berne et qui ne peut se permettre un faux pas.
Alors justement, à propos de la situation sur le terrain, écoutez ce reportage jeudi de Pierre Olivier à Saint-Martin, dans un quartier isolé, le quartier d'Orléans.
Ici, le temps est comme arrêté depuis le passage d'Irma. Pas de secours, alors les habitants du quartier se débrouillent eux-mêmes pour déblayer sans aucune protection, épuisés face à l'ampleur de la tâche et de la saleté omniprésente.
C'est sale. Regarde chez moi. C'est sale. Il nous faut du monde, mais... Il nous faut des gants. Je ne veux pas appeler des gens pour venir travailler sans les gants. Il nous manque des masques surtout. Il nous manque des trousses de secours. Moi, j'ai pris ce que j'avais à la maison. Il nous manque tout ça pour pouvoir travailler tranquillement et pour avancer dans un meilleur temps.
Dans ces montagnes de décombres et de voitures retournées, travailler sans protection est très dangereux, mais ces gens n'ont pas le choix.
Tu vois, on ne nous a rien donné. Ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont acheté. Et l'argent qu'on a pour gagner, il faut qu'on achète des matériels pour travailler. C'est dangereux, mais précaution. C'est la seule chose qu'on peut faire.
Malgré tout, les jeunes de ce quartier populaire participent à la tâche. Ils veulent rester à Saint-Martin.
Tout le monde essaie de partir, mais si personne reste, personne ne va rester pour remettre tout en place. C'est obligé qu'il y ait des gens qui restent pour arranger l'endroit.
En fin de matinée, un groupe de secours arrivera avec des tronçonneuses et des protections, le premier à mettre les pieds ici depuis une semaine.
Suite d'une semaine d'actualité, vous étiez inquiet à propos de la maison des Balkany, non?
Oui, il me semble que les époux Balkany ont une maison dans une de ces îles. J'espère qu'elle n'a pas subi trop de dégâts.
Alors, plus sérieusement, Yann Mince, les premières manifestations de l'automne, vous font penser à un automne chaud, comme on dit, ou un automne normal?
Je pense que, je ne ferai pas de comparaison avec d'autres automnes, mais je pense que Emmanuel Macron a choisi de faire passer les mesures les plus pénibles d'abord et d'amener ensuite les choses un peu plus douces. Je veux dire qu'il amène les mesures de flexibilité qui ont légitimement inquiète ceux qui peuvent en subir les effets. Et puis ensuite, il amènera les fameuses sécurités, c'est-à-dire notamment l'indemnisation chômage pour les gens qui démissionnent, pour les indépendants, et puis les mesures concernant la formation professionnelle, puisque si on est plus flexible, on est censé aussi derrière être mieux formé pour pouvoir retrouver plus vite un travail. C'est en tout cas la logique de ce qu'il a vendu. Alors, évidemment, en commençant par la flexibilité, il donne des verges pour se faire battre. Et je ne suis pas très étonné qu'il y ait manifestation. Moi, je ne spéculerai pas du tout sur l'ampleur du mouvement et sur ce qui va devenir, parce que je suis bien incapable de faire des prévisions là-dessus. Mais en termes de tactique, il a fait ce choix de commencer par le plus dur, alors que ce qui est frappant aujourd'hui, il me semble, si on se reporte à, je sais pas, 20 ans en arrière, c'est qu'on demande des résultats au nouvel élu, au nouveau président de la République de plus en plus vite. Avant, on attendait un peu plus, il me semble. Là, maintenant, il faut que tout soit fait tout de suite. Je dis pas que ce soit illégitime de demander des résultats, mais il faut prendre un peu de temps et ça, cumulé au fait que Emmanuel Macron a choisi le plus difficile pour commencer, ça risque d'être difficile pour lui, oui.
Ce qui est frappant, c'est que l'opposition se manifeste dans la rue. Il n'y a pour l'instant pas d'opposition politique, à part celle de Mélenchon.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition politique parce que En Marche au Parlement occupe une très 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 grande place et que pour l'instant
on ne sent pas
En Marche de dissension sur ce sujet. Moi, je prévois alors là que ça me paraît difficile qu'un groupe parlementaire aussi important ne finisse pas, je dis pas par éclater du tout, mais qu'on commence à voir apparaître des clivages sur certains sujets, ce qui ne me semble pas être apparu pour l'instant. Les Républicains, forcément, ils ont toujours plutôt défendu des mesures de flexibilité. Ce serait un peu compliqué pour eux de dire que c'est pas bien. Ils pourraient dire que c'est pas assez.
Ils peuvent dire
toujours que c'est pas assez. D'ailleurs, d'autres comme Pierre Gattaz trouvent aussi que ça n'est pas assez. Mais globalement, la seule opposition résolue au Parlement, c'est effectivement celle de Jean-Luc Mélenchon et de ses insoumis.
Une semaine d'actualité.
L'Afrique, maintenant, Yann Mince, notre continent de prédilection, et le Togo, notamment, après les manifestations pour un renouvellement de la démocratie dans le pays ces dernières semaines, ces derniers jours. Le projet de loi sur la réforme constitutionnelle a été présenté lors d'une session spéciale de l'Assemblée du pays. Une concession du régime aux manifestants, Pierre Pinto.
L'avant-projet de loi vise à réformer trois articles de l'actuelle Constitution. L'article 59, qui désormais stipulerait que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. L'article 60, qui restaurerait l'élection du président au scrutin à 2 tours, et non plus un seul, comme c'est le cas actuellement. 2 des revendications de l'opposition. Problème, la phrase « en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats » qui figurait dans la Constitution de 1992 ne figure pas dans le texte qui doit être débattu. Et c'est là que le bât blesse. L'opposition compte sur cette phrase base pour obtenir le départ du président Fornia Simbe, et ce, dès la mise en application de cette modification constitutionnelle, explique Jean-Pierre Fabre. L'opposition craint surtout que cette réforme mette les compteurs à zéro et permette à Fornia Simbe de briguer un nouveau premier mandat, puis un éventuel second, et potentiellement de rester ainsi au pouvoir jusqu'en 2030. Enfin, le troisième article à réformer concerne les députés. L'article 52 nouvelle version limiterait le nombre de mandats de députés à deux, ce qui n'était pas le cas auparavant. Bref, ce projet de réforme ne colle pas à la constitution de 92 dont l'opposition réclame le retour. Il ne fait pas non plus mention du vote des Togolais de l'extérieur, autre revendication entendue dans la rue depuis le mois d'août.
C'est une catastrophe naturelle dont les médias parlent peu ou pas du tout d'ailleurs, celle qui touche le Niger depuis plusieurs mois avec des inondations catastrophiques du fleuve Niger notamment. Elles ont fait ces inondations plus d'une cinquantaine de victimes, plus de 180 000 personnes sinistrées. Et écoutez ce que disait jeudi la représentante de l'ONU sur place, Viviane Van Ster-Tegem.
Le bord du fleuve, c'est un endroit où on cultive le riz. Il y aura également une surveillance de ces rivières qui ont été extrêmement affectées. Et l'autre urgence, évidemment, c'est tous les points d'eau, surtout les puits traditionnels et les autres puits de faible profondeur qui ont pu être contaminés soit directement par les eaux de la crue, soit par capillarisation quand il y a des zones inondées proches, des déchets ou autres, dans un endroit où tout est inondé, en fait. Donc, un des gros problèmes dans les heures qui suivent, ce sera de garantir une eau potable à toutes ces communautés.
Propos recueillis par Clémentine Palot. Suite d'une semaine d'actualité, ça y est, nous sommes sur le continent africain. Yann Hippolyte, qui nous écoute au Bénin, dans le centre du pays, à Boïkon, se pose une question. Quelle est la porte de sortie pour le gouvernement togolais? Bonne question, non?
Oui, très bonne question.
Est-ce qu'il peut tenir encore longtemps? Ça, c'est la deuxième question.
Moi, je pense que si le président Fornia Simbe disait « je ne me représenterai pas à la prochaine élection », ça serait une porte de sortie possible, parce que effectivement, ça rassurerait les opposants sur le fait qu'il va qu'il va pas faire de mandat de plus. Est-ce qu'il le croirait? C'est encore une autre affaire. Mais en tout cas, je pense que ce serait un grand geste d'homme d'État que de dire, bah voilà, j'ai été au pouvoir pendant assez longtemps. Le fait que son père ait été au pouvoir déjà est un peu embêtant, mais à la limite, on n'est pas forcément responsable du fait qu'on est fils de son père. Mais disons que lui a déjà été au pouvoir depuis pas mal de temps, plus que les deux mandats qui sont censés être prévus dans la nouvelle constitution. Donc voilà, il pourrait dire, je ne me représenterai pas et j'ai fait mon travail, je crois avoir fait mon travail, j'espère avoir fait mon travail et je rentre chez moi.
Mais je crois que c'est pas tout à fait ce qui va se passer, non?
Ah, ça, je sais pas. Il faut demander à Hippolyte ce qu'il en pense.
Bon, on lui demande tout de suite de nous écrire, d'ailleurs, pour nous dire ce qu'il en pense. C'est quand même intéressant ce qui s'est passé aussi au Kenya. On s'est pas vu depuis dans cette émission, Yann, avec l'annulation par la Cour suprême du pays du scrutin qui avait, de l'élection présidentielle qui avait eu lieu le 8 août, il me semble, et qui a décidé de refaire une élection le 17 octobre prochain.
C'est non seulement étonnant, mais je pense qu'à peu près personne ne s'y attendait, y compris au Kenya, y compris l'opposition kenyane. Je suis même pas sûr que Raila Odinga espérait tant. Alors c'est un très,
ça, c'est un
très beau geste, oui. un geste très important. Maintenant, la balle est dans le camp d'une autre institution kenyane, qui est la commission électorale, puisque visiblement elle a failli à son devoir en organisant dans l'organisation du premier scrutin. Elle doit en faire un deuxième. Il serait important politiquement et notamment pour la stabilité du Kenya, pour gérer même la sécurité des Kenyans, que la deuxième élection se passe mieux. Parce que si elle se passe mal, on peut penser que l'opposition, du coup, sera moins encline à respecter les institutions.
Ce qui veut dire que les Africains, je ne veux pas généraliser, mais on peut quand même le faire, ne veulent vraiment de vraies élections maintenant. Mais
évidemment, on parlait à l'instant du...
Ça vaut aussi dans d'autres pays.
Le Togo est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui n'a pas connu l'alternance, ce qui veut dire que, bien sûr, les Africains sont comme tout le monde. Ils veulent pouvoir voter, ils veulent pouvoir choisir, ils veulent pouvoir congédier un chef d'État ou un chef de gouvernement qui ne leur plaît pas. C'est ça le principe démocratique. Et de ce point de vue-là, je pense que, quoi que disent certains sur les traditions africaines qui ne seraient pas compatibles avec la démocratie, je pense que ça, c'est des sornettes. Les Africains sont comme les autres, ils veulent pouvoir décider. Et la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres, comme disait Churchill.
Grand Churchill. Vous signez, Yann, dans le dernier numéro en date d'Alternative économique, celui de septembre, un papier qui s'intitule « Les migrants privés de secours des ONG ». Il faut revenir sur cette affaire, cette pression qui a été faite sur les ONG.
Oui, c'est une pression qui vient en bonne partie du gouvernement italien. Oui. Depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois même, le gouvernement italien accuse des ONG, pas forcément les ONG, mais des ONG, d'être complices des passeurs. Le gouvernement italien est persuadé, d'une part, que les passeurs envoient des embarcations de plus en plus délabrées ou de plus en plus frêles, en sachant que derrière, il y aura des navires qui récupéreront les migrants. Je suis pas sûr que les passeurs se soucient beaucoup de la vie des migrants, mais en tout cas, là, ils ont encore à moins s'en soucier, peut-être. Mais et pire que ça, le gouvernement italien pense que certaines ONG, certaines, sont éventuellement complices en contact avec les passeurs. Du coup, il a voulu imposer un code de conduite aux ONG que la plupart d'entre elles ont refusé, dont Médecins Sans Frontières, notamment parce qu'il interdisait aux ONG qui recueillent des migrants de les transférer sur un bateau de garde-côte, par exemple, qui en général est plus vaste et plus important, plutôt que d'être obligé d'aller reporter à un port, etc., ce qui fait que ça perdrait du temps et moins de migrants seraient sauvés. Et par ailleurs, les autorités libyennes, maintenant les gardes-côtes libyens, ont créé une zone extrêmement large au-delà de leurs eaux territoriales, dans laquelle elles veulent interdire l'accès des ONG. Du coup, les ONG ne peuvent plus secourir les migrants. Les migrants risquent soit de se noyer, soit d'être coincés en Libye. Et la deuxième hypothèse, c'est celle que souhaite en fait un certain nombre d'États européens, c'est que les migrants ne puissent pas essayer de traverser, quitte à risquer de mourir, et qu'ils soient coincés en Libye, dégoûtés de venir en Europe, et que donc ils ne partent pas ou ils rentrent chez eux. Quand on connaît la situation aujourd'hui en Libye, on peut s'inquiéter à très juste titre pour les conditions et pour même la survie d'un certain nombre d'entre eux. On sait que les conditions de détention dans les camps en Libye sont atroces dans beaucoup de cas.
Et vous rappelez en outre, Yann Mince, dans cet article, que vous dites que ce n'a pas empêché au moins 2244 personnes de périr en Méditerranée centrale entre le 1er janvier et le 16 août, soit un peu moins que les 2718 morts de 2016 à la même époque. Tout le monde a oublié ça, c'est l'importance de ces...
Alors, ce que disent les autorités italiennes et plus largement les Européens, c'est qu'en juillet et en août, le nombre de morts a baissé parce que le nombre de traversées a baissé et que donc la bonne solution, c'est de les bloquer en Libye, d'empêcher les gens de traverser parce qu'évidemment, s'ils ne traversent pas, ils ne risquent pas de mourir. C'est comme ce qui s'est passé en Turquie. Depuis qu'il y a eu l'accord UE-Turquie, il y a beaucoup moins de morts parce qu'il y a beaucoup moins de traversées. La question, c'est que être bloqué en Turquie, c'est une chose. Être bloqué en Libye, c'en est une toute autre. Et je ne pense pas qu'on puisse faire de parallèle entre la condition des réfugiés syriens, qui est difficile en Turquie, mais qui n'a rien à voir avec les conditions de détention, notamment des Africains qui sont détenus en Libye.
D'ailleurs, il faut rappeler que pour l'instant, la situation est totalement bloquée en Libye, sur le plan politique. En tout cas, les deux gouvernements qui avaient fait semblant d'entamer un dialogue sous l'égide de Paris avant les vacances.
Il y a eu plusieurs médiations. Il y a une médiation émiratie, il y a une médiation française, les Italiens s'en occupent aussi, au point que Hassan Salamé, qui est le nouvel envoyé spécial de l'ONU pour le conflit libyen, commence à s'agacer de voir que tout le monde fait des médiations de son côté, bilatérales, alors que ce devrait être coordonné par l'ONU et singulièrement par lui en ce moment.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages à cette adresse ou à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Je salue aujourd'hui Jean-Jacques à Abidjan. Je salue Honoré à Marois au Cameroun et Hippolyte à Cotonou. Sans oublier Mahamat à N'Djamena. Bonjour aussi à Lionel à Lomé, à Mamoudou à Conakry, à Ekoué qui nous écoute lui dans le New Jersey aux États-Unis.
Sept jours en Afrique.
Yann Mince, revenons maintenant sur les révélations d'une ONG suisse, Public Eye, qui dans un rapport décortique les méthodes du négociant suisse en pétrole Gunvor, actuellement sous le coup d'une procédure pénale pour soupçon de blanchiment d'argent au Congo. Florence Maurice.
Des marges jusqu'à 4 fois plus élevées que les normes pratiquées dans le monde, voilà, à en croire Public Eye, ce que Gunvor a réussi à négocier dans le cadre de son accord conclu avec la Société Nationale de Pétrole du Congo, la SNPC. Est-ce une pratique courante à Brazzaville ou bien une exception? Difficile à dire, déplorent les auteurs du rapport, tant tout ce qui touche à l'exploitation du pétrole congolais est opaque. Mais une chose est sûre, cette décote consentie sur le prix du baril de pétrole constitue un manque à gagner pour le citoyen congolais, l'or noir étant la principale ressource de l'État dans le pays. Publica s'interroge également sur l'utilisation de l'argent que Gunvor a prêté au Congo, quelques 750 millions de dollars gagés sur de futures livraisons de pétrole. En théorie, après avoir allégé la dette du Congo en 2010, le FMI avait exigé de Brazzaville que cet argent serve à développer les activités de la Société nationale de pétrole. Mais au lieu de cela, déplore Publica, il a été affecté à des travaux publics coûteux et peu rentables. Et selon l'ONG, Gunvor n'y serait d'ailleurs pas pour rien puisque l'entreprise a également servi d'intermédiaire avec l'entreprise brésilienne Asperbras, chargée d'exécuter une partie de ses travaux. Selon Publica, Gunvor aurait touché 21 millions de dollars pour ce service rendu. Quant au représentant d'Asperbras au Congo, il a été mis en examen en 2016 pour corruption par la justice portugaise.
Et si le sujet vous intéresse, sachez que vous pouvez retrouver, lire ce rapport sur le site de RFI, rfi.fr, bien sûr. Le Mali et le Sahel, maintenant Yann Mins, pour faire un point sur le projet de création de la force du G5. Après avoir reçu le président mauritanien à Bamako lundi, Ibrahim Boubacar Keïta a achevé jeudi une mini-tournée dans les autres pays du G5 Sahel, c'est-à-dire le Tchad, le Niger, le Burkina. Le président en exercice du G5 y a rencontré ses homologues pour discuter de la mise en place concrète de la force conjointe antiterroriste en amont de l'Assemblée générale des Nations unies qui accueillera, on le sait, la semaine prochaine les chefs d'État et de gouvernement, Laurent Martel, jeudi.
C'est un moment clé pour la force du G5 Sahel. Son poste de commandement a été installé samedi dernier au centre du Mali et Paris ne cesse de répéter que ses premières opérations antiterroristes auront lieu dès octobre. Mais problème, le financement n'a pas évolué depuis le sommet de Bamako de juillet. Or les fonds promis par les pays concernés, l'Europe et la France, ne représentent qu'un quart des 430 millions d'euros jugés nécessaires par le G5 pour rendre cette force opérationnelle. Et si les Nations Unies avaient salué en juin dans une résolution la création de la force, aucune aide financière n'avait été prévue, notamment à cause des réticences de Washington et Londres. L'Assemblée générale de l'ONU est donc une nouvelle opportunité de convaincre la communauté internationale et surtout les Américains de mettre la main à la poche en mettant l'accent sur les quelques avancées réalisées. D'où l'importance pour les cinq présidents de parler d'une seule voix sur leurs besoins et stratégies. Reste à savoir si tous seront présents à New York, comme le souhaite d'ailleurs la France. Au moins, Idriss Déby et Mahamadou Issoufou n'avaient pas prévu de s'y rendre. Mais lors de sa tournée, le président Ibeka ne se serait pas contenté de consulter ses homologues pour pouvoir parler au nom de tous. De bonnes sources, il aurait réussi à les convaincre d'être tous présents à New York.
Rendez-vous donc la semaine prochaine à New York au bord de l'East River. Suite d'une semaine d'actualité avec vous, Yann Mins, on dira un mot de l'ONU, de l'Assemblée Générale, la grand messe annuelle. Mais revenons sur peut-être sur les propos de Florence Maurice, le papier de Florence Maurice sur cette ONG qui est Public Eye qui s'intéresse à un négociant suisse en pétrole, Gunvor, c'est intéressant.
C'est intéressant, mais ça rappelle plutôt que dans les affaires de matières premières, dont il y a d'excellents spécialistes à RFI d'ailleurs,
il y a
toujours eu une grande opacité. Dans certains pays, par exemple, les recettes pétrolières sont hors budget, ce qui évite d'avoir à rendre compte à qui que ce soit, et notamment à l'éventuel Parlement, je dis éventuel parce que parfois ce sont les parlements de papier, disons, ouais. De l'utilisation des fonds. Donc je ne suis pas absolument surpris qu'une fois de plus, sur des affaires de matières premières, qui se prêtent bien à ce genre de détournement, il y ait des soupçons. Ce qui m'a intéressé, c'était à la fin d'entendre qu'il y avait une entreprise brésilienne qui était également impliquée dans cette histoire. Alors, on a souvent dit le Brésil s'intéresse à l'Afrique, etc., parce que communauté lusophone, tralali, tralala. Il y a aussi des gens qui s'y intéressent, des Brésiliens, pour des raisons beaucoup moins sympathiques.
Alors, la mise en place du G5 se fait dans la douleur, visiblement.
C'est normal. Les armées africaines sont peu équipées. Beaucoup d'entre elles ont été prévues plutôt pour le contrôle interne que pour la défense extérieure du territoire, et encore un peu moins pour la lutte antiterroriste. C'est quelque chose qu'elles apprennent en le faisant. C'est difficile pour tout le monde. Je veux dire que c'est difficile aussi pour les armées des pays occidentaux beaucoup mieux équipées. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit à l'armée de faire de la lutte antiterroriste. À mon sens, c'est plutôt les services de renseignement. Et les services de renseignement, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont très bien équipés. Par ailleurs, la coopération dans des pays qui sont encore jeunes, quand même, qui ont encore la souveraineté un peu inquiète, comme le sont les pays africains, la coopération avec des armées d'autres pays est difficile, et la coopération entre services de renseignement est probablement encore un peu plus difficile, parce que ça suppose d'échanger des renseignements confidentiels et d'espérer que les autres vont respecter la confidentialité. C'est compliqué. C'est compliqué en Europe, alors en Afrique...
Et sachant que la France aimerait que son fardeau soit léger.
bien sûr, la France n'a pas forcément envie, quoi que dise Emmanuel Macron dans l'interview du Point sur le fait que la France doit être une grande puissance, elle veut bien être une grande puissance, moi je ne crois pas qu'elle puisse l'être, je pense qu'elle est une moyenne puissance, mais admettons qu'elle essaye de l'être, et ça lui coûte quand même cette affaire. On a bien vu les débats qu'il y a eu en France autour des opérations extérieures, c'est-à-dire tous les engagements des armées françaises sur les théâtres extérieurs, ça coûte très cher.
Et actuellement, la démission du général de Villiers.
Oui, le renvoi presque plus qu'une démission, parce qu'on l'a raccompagné vers la sortie. Bon, en tout cas, il y a une grogne chez les militaires français sur le fait qu'on leur demande des engagements, que ça coûte très cher et que les budgets ne suivent pas. Alors, les militaires râlent toujours, ils veulent toujours avoir plus d'argent parce qu'ils veulent toujours s'acheter de plus beaux équipements. Parfois c'est utile, parfois c'est un peu plus contestable. Mais en tout cas, dans les contraintes budgétaires qui sont celles de la France aujourd'hui, trop d'opérations extérieures, ça devient difficile. Et donc, est-ce qu'on a, quand on veut être une grande puissance, est-ce qu'on a les moyens financiers de ses ambitions? C'est une vraie question.
Alors le grand dossier de la semaine prochaine, dans l'actualité internationale, un des grands titres, ce sera l'Assemblée générale de l'ONU. Que faut-il en penser? Comme les feuilles mortes, hein, ça annonce l'automne.
Oui, moi je suis toujours, je resterai un peu un défenseur de l'ONU parce que je pense qu'il vaut mieux que ça existe plutôt que ça n'existe pas. C'est-à-dire si ça n'existait pas, ce serait encore pire.
Il faudrait l'inventer.
Il faudrait l'inventer mieux. Il faudrait refaire mieux, disons. Il faudrait pas refaire un Conseil de sécurité avec des gens qui ont un droit de veto juste parce que ils sont les plus puissants d'un moment de l'histoire. Il faudrait la faire autrement. Malheureusement, en raison de la constitution elle-même de la charte. Pour réformer le Conseil de sécurité, il faut que les membres actuels permanents soient d'accord. Et donc, ça veut dire qu'il faut leur demander un peu de s'amputer. C'est rare que les gens s'amputent dans la joie et volontairement.
Et la bonne humeur. Merci Yann Mince, on vous retrouvera dans les semaines qui viennent, évidemment dans cette émission.
Avec plaisir.
Vous êtes toujours le bienvenu. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous verrons comment, Yann, le sujet va vous intéresser, comment les Français, les colonisateurs français ont construit de toutes pièces un pays africain en prenant l'exemple de la Centrafrique sans vraiment s'en occuper et n'ont eu de cesse de le contrôler, ce pays, après son indépendance. Notre invité sera Jean-Pierre Tucois. Il vient d'écrire Oubangui Chari, le pays qui n'existait pas, et c'est la Centrafrique qui sera évidemment au cœur de notre émission demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.